Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bécablan Lelouch.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, le retour en force de la Star Academy. On fera un point sur les audiences de ce comeback réussi avec Anne Marcassus, productrice et PDG de DMLS TV. Le média en ligne brut a bouclé une nouvelle levée de fonds. On y reviendra un peu plus dans le détail dans le journal de Julien Casqui. Et puis pour terminer cette émission, la question Hebdo.com de la semaine. Avez-vous été convaincu par la façon dont a communiqué le gouvernement face à la hausse des cas de Covid? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. La réponse dans un instant avec Antoine Laurent, PDG de Hublot, et Pierre Dumazeau, directeur chez Tilder. Voilà le programme. Hebdo.com, c'est parti, ça commence.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien.
Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
Est-ce que vous reconnaissez ce son?
Ah, bien sûr, évidemment.
Et bah, c'est pour bien accueillir. Exactement, l'hymne de la Starac, c'est pour bien accueillir Anne Marcassus. Bonjour.
Bonjour, vous bonjour, êtes, bonjour.
Vous êtes productrice et PDG de DMLS TV aux côtés de Mathieu Vergne. Vous coproduisez donc avec Andemol la Starac, qui a fait son grand retour, mais aussi pour TF1, la chanson de l'année, la chanson secrète, du haut mystère, le spectacle des enfoirés qui réalise chaque année la meilleure audience de divertissement de toutes les chaînes confondues. C'est ça?
Exactement, exactement.
Et pour M6, le grand karaoké. Mais on va commencer par la Starac.
D'accord.
Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès pour un retour 15 ans après?
Non, franchement, je pense que personne ne pouvait imaginer ce succès. Et en fait, je pense que le succès vient des valeurs que le programme a dégagées, avec une belle jeunesse qui avait envie de réussir, de travailler, qui étaient pleins de bons sentiments entre eux. Ils étaient de très bons sentiments entre eux. Il n'y avait pas de compétition agressive. Voilà, c'est une belle image de la... Voilà, exactement. Plein de bienveillance, donc une belle image de la jeunesse.
Quelques chiffres. Hormis la demi-finale et la finale, les primes affichent un bilan d'audience qui réunit 4,2 millions de téléspectateurs et les quotidiennes en moyenne 1,9 million de téléspectateurs. Ça représente plus de 40% de part d'audience en moyenne. Comment a réagi TF1 et comment ont réagi les annonceurs?
Ah bah, je pense qu'ils étaient ravis.
Sûrement.
Ils étaient ravis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui font ça. Vous avez cité le spectacle des Enfoirés aussi, qui est caritatif, donc c'est autre chose. Les gens viennent pour d'autres raisons. Mais là, c'est vrai que c'est un rendez-vous quotidien et hebdomadaire. Donc, c'est vrai que c'est...
Ce qu'il faut tenir sur la durée.
Bah, c'est incroyable, voilà. Bon, il y avait aussi l'effet du retour, le casting des professeurs, le casting des élèves, Nikos, qui était la caution, et puis aussi l'équipe, Mathieu Vergne, comme vous l'avez dit, mon associé, qui était aux manettes il y a 20 ans, et qui a participé, qui a produit 8 émissions de la Starac, donc lui connaissait le mécanisme par cœur, Jean-Louis Blot, les équipes d'Andemol, qui eux ont assuré toute la production, la production, les deals avec les chaînes, les deals avec les partenaires, et puis qui faisait que tous les samedis et puis d'installer tout le château, quoi. Franchement, c'était une infrastructure énorme, quoi. C'était une super production.
Et puis c'est de la nouveauté aussi pour Rodolphe Belmer qui vient d'arriver à TF1.
Exactement.
Le connaissez, il était content.
Oui, bien sûr. Je l'avais rencontré à l'époque de Canal, mais là, je pense qu'il était très content. Il était là dans la régie pour assister aussi à des émissions de la Starac. Bah oui, je pense que ça plaisait à tout le monde. Moi, j'ai des copains qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui regardent pas toujours mes émissions, mais là, tout le monde était complètement, c'était pris d'affection pour ses élèves et puis voilà, et puis ses profs, quoi. Je pense qu'on a quoi, le pari des profs entre Michael Goldman, Laure. Le casting est réussi. Voilà.
Frédéric.
Est-ce qu'un tel succès, au fond, c'est pas une sorte de revanche de la télé linéaire face aux plateformes, je veux dire qu'on réunit à nouveau des tas de gens pendant autour de d'un programme unique dont on parle le lendemain.
Mais déjà, ça montre que quand on dit que la télé ne va plus exister, c'est que la télé existe. Quand il y a des bons programmes, les téléspectateurs sont là. Donc déjà, c'est hyper rassurant pour la télé. Et il n'y a pas que regarder les programmes sur le téléphone ou sur... la télé est toujours le média rassembleur. Donc ça, c'est quand même la super bonne nouvelle. Et c'est rassurant.
Quelles ont été les plus grosses difficultés sur cette production ?
Je pense que la première difficulté, c'est déjà de trouver, franchement, passer après un tel succès avec des directeurs, par exemple, ne serait-ce que les directeurs Alexia, Gérard Louvain, Nathalie André, qui étaient des directeurs emblématiques qui ont marqué, Pascal Nègre, des gens qui ont marqué, les professeurs qui avaient marqué de leur empreinte. Les Starac précédentes, je pense que de réussir le casting des profs, c'était déjà une grosse prouesse parce que tout le monde les attendait au tournant. Ouais. Donc ça a été la première prouesse. Ensuite, le casting des élèves. Ensuite, savoir s'il fallait reprendre les mêmes rouages finalement ou bien vouloir tout casser, tout moderniser. En fait, le côté nouvelle formule de la Star Academy, non, on a repris les mêmes valeurs. Et donc je pense que c'est ça qui a participé au succès, l'ancrage du pour ceux qui ne connaissaient pas, tout d'un coup c'était nouveau, c'était frais, c'était, et pour ceux qui connaissaient, ils n'ont pas été déçus. Donc
le corps professoral joue beaucoup, j'ai l'impression, dans le succès de la Julien,
est-ce qu'il y aura une deuxième saison ?
C'est en négociation, c'est en démol qui négocie, donc et nous.
TF1 veut une nouvelle saison ?
Pense que oui. Ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pense que TF1 évidemment veut une nouvelle saison. Après, TF1 et en démol sont en train de négocier, et puis voilà.
La prochaine étape pour vous, c'est le spectacle des Enfoirés, qui a lieu du 12 au 16 janvier à Lyon. Quels sont les enjeux majeurs pour cette édition 2023 là ?
Déjà, il y a un nombre de bénéficiaires qui est de plus en plus important, puisqu'il y a plus avant, on était un peu en dessous du million de bénéficiaires. Là, il y en a, je crois, ça explose. Je pense que les gens, il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de jeunes dans la rue. Donc, je pense qu'il faut il faut que tout le monde aide, que ce soit les Restos du Cœur ou les autres associations, parce que c'est d'un devoir, je pense. Je pense que souvent les gens se disent on va pas participer parce que il y a trop de monde. Si moi, je pense que c'est hyper important de laisser même ses égos, ses différences. Pour aller vraiment aider ces pauvres gens qui sont de plus en plus mal lotis, quoi. Moi, j'habite dans un quartier où partout on voit des gens dormir dans la rue, quoi. On voit des gamins, quoi. Je pense que c'est un devoir, voilà. Donc moi, je le vois d'abord comme un devoir avant de le voir comme un métier. Et de faire une belle émission, c'est d'abord un devoir de réussir ça vraiment. Pour eux, quoi.
Un mot sur l'évolution de la consommation des programmes en ce moment, les replays, les petits écrans. Vous en pensez quoi en tant que productrice majeure aujourd'hui ?
C'est quand même bien pratique. Les replays, c'est
donc ça vous
même...
fait pas peur ?
De toute façon,
pour la production de flux.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi-même, je consomme pas mal de replays parce que je suis pas forcément devant la télé au moment où je veux voir les programmes. Donc évidemment que. Ça fait partie de l'évolution naturelle.
Julien ?
On a vu avec la Star Academy justement que les replays ou même les réseaux sociaux surtout ont amplifié le phénomène. Et ça, c'est pour ça que ça a aussi beaucoup parlé aux jeunes. Quel rôle vous avez joué là-dedans ?
Ah ben rien du tout. Ça c'est après, ça c'est le. C'est déjà la case à 5h30. Il y a beaucoup de gens qui sont pas devant leur télé. Donc c'est pour ça que heureusement que les replays ou que la chaîne continue.
Mais les réseaux sociaux, surtout TikTok, Instagram.
Ah oui, ça c'est essentiel, pardon. Ça,
quel rôle vous avez joué sur.
Mais ça, il y a une équipe dédiée. Maintenant, il y a des équipes dédiées à ça et c'est essentiel.
Ça a amplifié vraiment le.
Et bien sûr, là justement, sur les enfoirés, on est en train de travailler là-dessus. Jusqu'à présent, on avait laissé complètement ça de côté. Mais aujourd'hui, pour faire une communication.
C'est la première fois là que cette. Sur les enfoirés, on va que essayer, vous allez à ce point de.
Tout à fait, ouais. On va essayer d'apporter, de faire une communication beaucoup plus. Mais oui, ça rend événementiel, ça peut rendre beaucoup plus moderne. Voilà. Donc c'est vrai que là, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire, justement, en termes de com sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est indispensable.
Un mot pour terminer.
La preuve, Céline Dion, aujourd'hui, elle annonce. Mm. Elle annonce qu'elle fait pas sa tournée, elle l'annonce où ? Elle l'annonce sur les réseaux sociaux. Donc c'est vecteur de messages, ça touche un grand nombre de gens et ça touche surtout des gens qui au départ ne peuvent ne pas être touchés par ce type d'infos, par un programme ou autre.
Est-ce qu'un jour vous auriez envie de produire pour des plateformes ?
Ah bah oui, on essaye.
C'est vrai ?
Oui, on a un projet, on a un projet avec Amazon, oui.
On peut en savoir plus ?
Non.
Bon, bah c'est l'heure pour terminer cette interview de passer à l'étude de cas de Julien Casqui.
Eh oui, parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier le cas Marc Assus avec vous, voilà.
Voilà, donc c'est 10 questions en rafale, 2 minutes, on lance le chrono, c'est parti.
C'est parti, Anne-Marc Assus, votre réseau social préféré ?
Instagram.
Le matin, sur quel média vous informez-vous ?
BFM.
BFM TV ?
Ouais.
Cyril Hanouna ou Yann Barthès ?
Je passe.
Ah, y a pas, on passe.
Ah Yann Barthès, beaucoup. Et Cyril Hanouna, de temps en temps.
Le meilleur producteur de télé à part des MLS TV ? Aujourd'hui. Allez, tic-tac, tic-tac.
En variété, il n'y en a pas beaucoup.
En flux.
Tout genre compris. Bon, on passe. Ouais. Les deux ingrédients pour réussir une émission de musique à la télé.
Je pense qu'il ne faut pas que des bons chanteurs, il faut un concept, il faut quelque chose qui porte.
Un concept,
voilà.
Et
des artistes qui se donnent.
Si vous étiez une émission de télé, ce serait quoi ?
Le spectacle des enfoirés.
Si vous étiez une émission de radio.
Une émission d'info.
La personne qui vous inspire le plus dans les médias. Nikos.
Nikos.
L'émission qui manque au PAF.
Une émission de variété récurrente.
Comme quoi par exemple ?
Bah, comme à la grande époque, les Champs-Élysées, toutes ces émissions-là.
Et parmi toutes vos productions, de quoi êtes-vous la plus fière ?
Les enfoirés. Les enfoirés, c'est pas une fierté personnelle, c'est une aventure humaine exceptionnelle avec des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont fait aimer ce métier dès le départ. Donc voilà.
Les enfoirés.
Voilà.
Et une question pour terminer, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ?
Ah, puis mon producteur préféré, Mathieu Vergne.
Mathieu Vergne, oui, mais voilà. C'est des MLS TV.
Une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ?
Quand est-ce que je vais arrêter ?
Quand est-ce que vous allez arrêter ?
Non, je sais pas, je plaisante. Non, mais est-ce que vous allez continuer longtemps ? Ben oui, tant qu'on a l'envie, voilà.
Vous ne pourrez pas vous passer de ça.
Ben pour le moment, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Je pense que si on n'aime pas ça, on doit arrêter tout de suite.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie. Merci à vous.
Productrice et PDG de DMLS TV. C'est parti pour le jour, pour votre journal, Julien.
C'est parti.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
Le marché publicitaire français va frôler les 18 milliards d'euros l'année prochaine, Julien.
Oui, soit une croissance de 5% selon les dernières prévisions des agences GroupM et Magna. Alors il faudra d'abord s'attendre à une activité molle en début d'année, puis un rebond mi-2023. Les raisons à ces chiffres optimistes, le retour de la croissance en Chine, les investissements sur les réseaux sociaux qui vont repartir, et puis l'explosion du retail média. L'automobile devrait se remettre à communiquer, le numérique dépassera pour la première fois les 60% de parts de marché.
Et 2024 devrait être encore meilleur avec les Jeux Olympiques. L'Arcom a lancé l'appel à candidature pour les fréquences de TF1 et M6.
Et oui, car les autorisations des deux chaînes arrivent à échéance en mai 2023. TF1 et M6 sont évidemment candidats au renouvellement de leurs fréquences. Xavier Niel devrait aussi déposer un dossier pour tenter d'en récupérer une. Le milliardaire ne cache plus ses envies d'acheter une chaîne de télévision après avoir essayé de racheter le groupe M6. Les dossiers devront être remis au plus tard à l'Arcom le 23 janvier prochain. 70 millions, c'est le nombre de likes sur Instagram qu'a reçu une photo de Cristiano Ronaldo et Léo Messi en train de faire une partie d'échecs sur une mallette Louis Vuitton. L'image a été postée au début du mondial par les deux joueurs et LVMH. Elle est en train de devenir la photo la plus likée sur Instagram. Bon coup de com donc pour LVMH, partenaire de la Coupe du Monde.
Le média en ligne Brut a bouclé une nouvelle levée de fonds.
Oui, auprès de ses anciens actionnaires, Xavier Niel, BPI France et, François-Henri Pinault. Selon le Figaro, Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, pourrait lui aussi entrer au capital de Brut en complément de cette levée. Brut a besoin de cash et a procédé récemment à des licenciements aux États-Unis. Il souhaite atteindre la rentabilité l'an prochain.
Webedia lâche le youtubeur Norman.
Le groupe Webedia, oui, qui accompagne Norman depuis de nombreuses années, et bien suspend sa collaboration après sa garde à vue cette semaine pour viol et corruption de mineurs. YouTube pourrait aussi arrêter la monétisation de sa plateforme. Norman, c'est le troisième plus gros youtubeur avec 12 millions d'abonnés.
Et dans une autre affaire, Jean-Marc Morandini a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il reste pour l'instant à l'antenne de CNews. Et puis cette semaine, notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou, ce sont les traditionnels vœux de décaler, les vœux décalés de Publicis pour l'année prochaine.
Dans une vidéo de 2 minutes, Arthur Sadoun et Maurice Lévy en ont profité pour lancer un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus, un sujet qui est cher à Arthur Sadoun, qui a lui-même été touché par un de ses cancers cette année. Il avait choisi de révéler sa maladie et avait fait suivre à ses 85 000 salariés les étapes de sa guérison. Je vous propose d'écouter.
Quelle année magnifique pour le groupe. Bravo Arthur. Une croissance à 2 chiffres, holding de l'année, numéro 1 new business.
Maurice, vous saviez que 80% des adultes ont le papillomavirus ?
Attendez, vous savez que c'est censé être la répétition de la vidéo de nos vœux. Et en principe, cette année, on finit comme ça.
Maurice, 80% des adultes ont ce virus qui donne des cancers. Le cancer que j'ai eu.
80%? Franchement, je ne savais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que 80% des téléphones en panne sont en réalité tombés dans les toilettes. Je sais aussi que 43% des pilotes d'avion se sont déjà endormis en vol.
Ok. Et vous savez que 20% des hommes de votre âge, qui ont encore leurs cheveux, en réalité en perdent 3000 par mois.
3000? Vous êtes sûr ?
Un message donc de santé publique avec quand même une petite dose hollywoodienne, puisqu'à la fin de cette vidéo, on aperçoit l'acteur Michael Douglas, lui aussi remis d'un cancer lié au papillomavirus.
On adore, Frédéric, cette autodérision.
Oui, oui, c'est réussi. Ça fait des années qu'ils font ça. Et à chaque fois, on croit que ça ne va pas le faire. Et ils trouvent un petit truc. Et le truc cette année, c'est quand même l'apparition de Michael Douglas.
Comme on voilà, sait il le dit bien.
Merci, Julien. C'est parti pour le Focus Com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus Com.
Avez-vous été convaincu par la façon dont a communiqué le gouvernement à inciter à la prudence et à reprendre les gestes barrières face à la hausse des cas Covid? C'est la question Hebdo.com de la semaine. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour Tilder et pour BFM Business. Et alors la réponse est oui à 54%. Moi personnellement, j'ai été très étonnée de ce résultat. Pour en parler, nous recevons Antoine Laurent. Bonjour, vous êtes PDG de Hublot qui accompagne les établissements de santé notamment. Et Pierre Dumazo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Tilder. Pierre, je commence avec vous. Donc un peu plus de la moitié se déclare convaincue par ces prises de parole du gouvernement, par cette incitation du gouvernement à reprendre les gestes barrières. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre plutôt à un ras-le-bol de la part des Français?
Si, moi je suis un peu comme vous. J'ai été un petit peu surpris par les résultats de ce sondage. Et puis finalement, en y réfléchissant, c'est quoi? Le gouvernement, il doit lutter, en tout cas être en équilibre entre deux éléments. Le premier, c'est faire son travail, à savoir protéger les Français et protéger la santé des Français. Et d'un autre côté, préserver les libertés fondamentales. Et on a vu lors des différentes vagues de Covid que plus on enchaînait les restrictions, eh bien plus les Français, une certaine partie des Français, refusaient tout ça. Là, je crois qu'on est revenu à quelque chose d'assez raisonnable, d'où les résultats de ce sondage. Les Français préfèrent se protéger, disons, en amont d'une possible 9e vague pour éviter des restrictions trop drastiques dans les prochains mois ou en commençant l'année.
Donc c'est par anticipation.
C'est plus par anticipation. Et le gouvernement aussi prévient extrêmement en amont parce que on sait que les cas de Covid augmentent et que la 9e vague commence à être là, mais on n'est pas encore au cœur du pic épidémique. Et pourtant, le gouvernement déjà rappelle les gestes barrières, le masque dans les transports, etc. etc. Donc ça veut bien dire qu'il y a, au-delà de l'effet d'annonce, la volonté en amont de protéger les Français.
Antoine Laurent, c'est quoi votre déduction ?
Oui, ben, je rejoins ce que disait Pierre. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prise de conscience des Français de la gravité de la situation sanitaire et sans doute aussi de l'épuisement des soignants auxquels nous, on fait face auprès des 2500 établissements qu'on accompagne chez Hublot. Donc là, il y a un message difficile qui est passé de la part du gouvernement. Il y a une triple épidémie qui est en cours et pourtant, les Français réagissent de façon positive. Donc c'est rassurant à la fois pour faire face à l'épidémie et rassurant aussi pour la situation de l'hôpital et des établissements de santé qui sont au bord de la rupture.
Mais en fait, c'est parce que, au fond, le gouvernement n'oblige personne. C'est ça qui fait que c'est accepté. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années, où tout d'un coup, à partir du temps,
c'était
obligatoire, il y avait des restrictions, des obligations de porter le masque là ou là. Au fond, là, le gouvernement dit ce serait bien si vous le portiez. Ouais. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est accepté. Ouais, oui, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu contradictoire au fond ?
C'est vrai que là, on est totalement dans l'incitation et pas du tout dans l'obligation. Ce qui fait que pour l'instant, effectivement, c'est accepté. À voir si ça va vraiment être suivi
par contre,
du comportement.
C'est pas vraiment suivi des faits, quoi, pour le moment.
Qui va avec. À voir avec le temps si ça va marcher ou non.
Est-ce que justement, parce qu'on est dans une incitation et pas dans une obligation, parce qu'on analyse un petit peu quand même la communication du gouvernement, est-ce que cette subtilité joue, selon vous ?
Oui, elle joue. Elle joue sur le résultat du sondage et elle joue en général. C'est toujours moins violent d'inciter puis d'obliger en disant « on a prévenu, maintenant on n'a plus le choix que d'inciter », plutôt que du jour au lendemain dire « voilà, on interdit, on oblige de porter le masque dans les transports, il y a un certain nombre d'interdictions, etc. etc. » L'incitation, c'est moins violent.
Antoine Laurent, j'ai une petite question. Après, je vous laisse intervenir. Donc, les Français se disent convaincus, mais est-ce qu'ils passent à l'action, vous qui êtes sur le terrain? Est-ce qu'il y a une différence entre là, ce qu'ils expriment dans le sondage et ce qui se passe réellement?
Alors ça, je pense qu'on va le voir, dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se ressent pas encore du côté des établissements. Côté soignants, il y a un épuisement de la part des soignants. C'est ce que je raconte dans mon livre, Le Grand épuisement. Mais il y a vraiment un épuisement des soignants. Et donc, on ne voit pas encore l'impact de ces gestes barrières auxquels on incite les Français. On espère le voir à Noël. On s'attendait à un été très difficile qu'on a réussi à tenir du côté des soignants. Nous, c'est ce qu'on a pu observer. Mais c'est à voir, en quelque sorte.
Frédéric ?
Oui, parce que on entend quand même les soignants être beaucoup plus véhéments fondamentalement que le gouvernement. On entend des appels au port du masque dans un certain nombre d'endroits où il y a du monde, dans les pharmacies, etc. Donc on a un peu l'impression qu'on est dans une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, on se prépare à peut-être pire, parce que de l'autre côté, il y a une demande, demande des soignants qui voient la vague arriver avec beaucoup d'inquiétude.
Bah, ce qui est sûr, c'est que les soignants, ils sont dans une situation où eux, ils sont sur le terrain, ils le voient, ils poussent pour ces gestes barrières, pour ralentir les épidémies, en fait, les trois. Et ils sont dans une situation où ils sont surchargés et ils ont besoin de regagner du temps de soins pour consacrer aux patients. Et donc ça, ils en manquent cruellement du temps. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais une des choses qu'on peut faire, c'est nous, en tant que citoyens, réappliquer les gestes barrières pour qu'ils aient moins de patients, donc plus de temps à consacrer à ceux qui sont là et qui en ont besoin.
Merci beaucoup Antoine Laurent. Merci, vous êtes président de Hublot qui gère les remplacements et les vacations dans les hôpitaux partout en France, et vous l'avez dit, vous êtes également auteur de l'essai Le Grand Épuisement sur la saturation de l'hôpital et des soignants qui vient de paraître aux éditions Débat Public. Et puis merci beaucoup Pierre Dumazo, vous êtes directeur chez Tilder. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.
BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
Frédéric, vous nous parlez d'efficacité aujourd'hui.
Oui, je vous parle d'efficacité. Vous vous souvenez que la semaine dernière a eu lieu la remise des prix EFI qui ont couronné entre autres Back Market et son agence Marcel. Les prix EFI nous viennent des États-Unis où ils ont été importés en France il y a près de 30 ans par Christian Blachas, le fondateur de CB News, ce qui voulait dire communication et business et non pas Christian Blachas. Et ce qui avait fasciné Christian, c'était qui reste d'actualité aujourd'hui, c'est que ces prix EFI prime avant tout l'efficacité.
D'où leur nom.
Exactement. Pour gagner un prix EFI, il ne suffit pas de faire une belle campagne, il faut surtout prouver que les résultats de l'action ont été efficaces. On parle de hausse des ventes évidemment, mais aussi de notoriété, de fréquentation ou dans le cas de campagnes humanitaires ou pour les ONG, d'adhésion ou de dons.
On peut donc gagner aux EFI même en faisant une campagne de pub moche.
Vous savez que vous allez me poser cette question. En théorie, oui, mais c'est effectivement pas la qualité graphique, la musique ou la mise en scène qui est jugée. Pourtant, une campagne efficace est avant tout une campagne créative et séduisante. Ça, on s'en doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, l'ACC, l'association des agences conseil en communication Kantar Insight et Média Figaro le prouvent. Ils ont fait une étude qui consiste à tester les campagnes de cette année. Ils ont testé 2700 campagnes pour identifier les piliers de l'efficacité de la publicité. On en trouve 5. Il faut d'abord générer une réaction émotionnelle forte à l'égard de son audience. Ensuite, il faut savoir se différencier dans le gros bruit publicitaire. Il faut exister. Troisièmement, il faut partir de la problématique, en anglais on dit insight, ça fait plus chic, du consommateur pour y répondre correctement. Le quatrième pilier, c'est celui de l'histoire qu'on raconte, dans laquelle la marque, évidemment, doit jouer un rôle central. Et puis, il faut bien distribuer sa publicité, sa campagne, dans les meilleurs médias. Autrement dit, il faut être créatif. Une belle création bien visible qui répond aux attentes du marché marchera toujours mieux qu'une campagne mal fichue et massivement diffusée.
C'était un peu évident, non ?
Oui, c'est un peu évident. Sauf que, manifestement, tous les annonceurs ne le pense pas. Pour bien nombre d'entre eux, c'est en répétant massivement sur tous les canaux une publicité, y compris si elle n'est pas terrible, qu'on obtient des résultats. Et en réalité, c'est ça qui fait du mal à la pub et puis aussi un petit peu aux marques.
Merci beaucoup Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, très bon week-end sur BFM Business.